Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
J'ai raccommodé mon cœur. C'est chez toi qu'on dit rien, mais que la nuit est si blonde. Je reverrai tes yeux dans les couloirs de mes rêves. Qu'un souffle les enlève, j'éventrerai les cieux. En juillet 69, on dépucelait la blonde. Puis en 68, on a refait le monde. On brûle bien des vierges, va-t'en savoir pourquoi. On consume des cierges, ça calme nos effrois. C'est eux qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. S'il n'est qu'une joconde, de sourire en travers offert à tout le monde. On esclave des frères, va-t'en savoir pourquoi. On déchire la terre, car on s'ennuie des fois. C'est eux qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. J'ai raccommodé mon cœur. C'est chez toi qu'on dit rien, mais que la nuit est si blonde. Je reverrai tes yeux dans les couloirs de mes rêves. Qu'un souffle les enlève, j'éventrerai les cieux. C'est qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. Un soleil qui s'éteint, c'est une mer qui s'étire. Un enfant qui nous vient, c'est une mort à venir. Puis toujours ce temps qui nous porte, c'est pas nous qu'on choisit. Nous, on s'emporte dans un désir de désir.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. La radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Ah, 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 je suis chômeur, ah, 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 je suis pointé.
Petite erreur, mais tout va bien. Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2. Et aujourd'hui, nous allons à l'international, commencer par un sujet qui devient assez récurrent dans cette émission. Depuis que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, de nombreuses mesures ont été prises par notamment le ministère de l'Intérieur et le ministre des Transports. On reviendra dessus. On ira ensuite du côté de l'armée syrienne, qui veut reprendre le contrôle du nord de la Syrie par la force si les rebelles refusent de capituler. On enchaînera avec un sujet sur la Hongrie qui instaure un délit pénal pour l'aide aux migrants dits illégaux. Et on terminera ce sujet à l'international par un sujet sur les africtivistes.
C'est ça, bien.
Voilà. Au national, on ira du côté d'une grève de l'énergie chez Enedis et GRDF, où plus de 245 sites sont dans le mouvement. Et on continuera avec un projet d'attentat en France par des militants d'extrême droite qui a été déjoué au funérailles national par cette nouvelle très très grave attaque contre les sans-papiers, une fois n'est pas coutume, puisque le Sénat a décidé de restreindre l'aide médicale d'État.
Au local, on finira par parler de Gérard Collomb qui a été pris dans la main dans le sac pour des détournements de fonds. Donc il y a une plainte qui a été posée par les Républicains là-dessus par rapport à la campagne de son Macron. On ira faire un tour du côté de Lyon 2 où un professeur d'université a été sanctionné et suspendu pour au moins une année suite à des plaintes d'harcèlement sexuel. Et on finira par revenir sur l'expulsion du squad des mineurs isolés qui a eu lieu jeudi dernier et qui a été
absolument scandaleuse du début à la fin.
C'est ça.
Voilà. Alors, on commence par le gouvernement italien d'extrême droite qui continue sur sa lancée réactionnaire, notamment et principalement contre les migrants. Alors, pour rappel, on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, ce gouvernement a pris le pouvoir début juin. C'est Giuseppe Conte qui est le Premier ministre, mais c'est un véritable pantin au moins des deux principaux chefs de file des partis vainqueurs des législatives, c'est-à-dire Luigi Di Maio pour le mouvement 5 étoiles, qui est maintenant ministre de l'économie, et du travail et des politiques sociales, et Matteo Salvini pour la Ligue du Nord, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, donc qui sont deux partis d'extrême droite. Alors, vous avez évidemment entendu parler de l'affaire de l'Aquarius, plus de 600 migrants, il y a quelques semaines, la semaine dernière, il y a 10 jours, avaient été refusés des ports italiens. C'est désormais au tour du navire Lifeline, d'une ONG allemande, d'errer dans les eaux internationales avec à son bord 239 migrants et migrantes, dont au moins 4 bébés. Alors une fois de plus, l'Italie puis Malte ont refusé que le bateau accoste dans leur port. Techniquement et pratiquement, c'était dans un port italien que ce bateau devait accoster, mais Salvini a une nouvelle fois refusé, comme pour l'Aquarius. Puis, c'est au tour de Malte d'avoir refusé, en disant que c'était pas elle d'accepter ce bateau dans les ports maltais. Alors encore une fois, la France ne bronche toujours pas, c'est passé hier et aujourd'hui, et ce bateau est bloqué dans les eaux internationales. Alors, jeudi dernier, l'Italie a annoncé qu'elle placerait sous séquestre 2 navires de cette fameuse ONG allemande, Lifeline, d'ailleurs dont le bateau qui est aujourd'hui toujours dans les eaux internationales avec 239 migrants à son bord. L'annonce a été faite par un certain Danilo Toninelli, qui est le ministre italien des Transports et qui est membre du mouvement 5 étoiles. Donc, on reprécise une nouvelle fois que le mouvement 5 étoiles n'est pas un parti populiste, inclassable politiquement, mais que c'est un parti d'extrême droite, rouge-brun, qui n'est pas sur les, tout à fait sur les mêmes bases, qui sont les bases néofascistes de la Ligue du Nord, mais qui reste un parti d'extrême droite. Donc, ce qui est mis en avant pour cette séquestration de deux navires de cette ONG Lifeline, c'est vérifier leur pavillon d'appartenance, puisque l'ONG aurait manqué au droit international en secourant les migrants, alors que les gardes-côtes de Libye étaient déjà en train d'intervenir et que les bateaux navigueraient illégalement sous pavillon néerlandais. Très bonne blague de la part de ce ministre des Transports du Mouvement 5 étoiles. Évidemment, ça a été démenti par la présidente de l'ONG, et c'est normal, l'objectif étant d'empêcher ces bateaux d'aller secourir des migrants qui sont, pour la plupart, en danger en mer Méditerranée. D'ailleurs, cette nouvelle vague de répression contre les migrants intervient alors que l'on a appris ces derniers jours que plus de 1000 migrants et migrantes étaient morts noyés en mer Méditerranée depuis le début de l'année. Ça, c'est les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. C'est les chiffres les plus sûrs que l'on peut avoir, hein. Pour rappel, en 2016 et en 2017, plus de 5000 migrants sont morts en mer Méditerranée. En 2015, on était à 3700. Il y a eu un pic en 2014, mais auparavant, les chiffres étaient beaucoup moins importants. Donc, globalement, d'année en année, les morts en mer Méditerranée augmente. Et il est évident qu'avec ce type de politique raciste, réactionnaire et nationaliste de l'Italie, eh bien, les 1000 morts en mer Méditerranée, les 5000 morts de 2016 et de 2017 risquent d'augmenter. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul fait de l'Italie. Les politiques impérialistes des États-Unis, notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et de plusieurs pays d'Europe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et dans une partie de l'Afrique, avec pour les pays d'Europe, la France en chef de file, ces pays ont une énorme part de responsabilité puisqu'ils sèment la guerre, la pauvreté dans des pays qu'ils considèrent comme leur chasse gardée. Et donc ce sont eux qui en sont les principaux responsables. Et dans le domaine des politiques racistes d'ailleurs et réactionnaires, la France n'est pas en reste, on en a déjà parlé plein de fois, que ce soit sur la loi asile-immigration ou sur les différents types de répression policière dont on a déjà pu parler. Alors revenons sur l'Italie. Salvini, toujours sur la question des migrants, a appelé à un recensement dernièrement, ces jours-ci, précis des Roms d'Italie, afin d'expulser tous ceux qui étaient ou pourrait être considéré en situation irrégulière. Et pour terminer sur cette Italie, connaissez-vous un certain Roberto Saviano ? Alors, ce monsieur est un journaliste auteur à succès qui a mené plusieurs années d'enquête sur la Camorra, qui est la mafia napolitaine, et il a prouvé ses liens multiples et qui sont depuis avérés avec le monde des affaires et de la politique, et pas seulement ces dernières années, hein, on parle de décennies. Ce livre, il s'appelle Gomorra, il y a d'ailleurs eu un film qui en a été tiré. Alors, évidemment, il a été menacé de mort à plusieurs reprises par la Camorra, et depuis 2006, il est sous escorte policière. Eh bien, ce fameux Roberto Saviano s'est permis dernièrement, publiquement, de critiquer les politiques racistes et anti-migratoires de ce nouveau gouvernement, comme des gouvernements précédents, mais encore plus de celui-ci. Eh bien, Matteo Salvini a décidé, en tout cas a annoncé, qu'il envisageait de lui retirer son escorte policière, donc qui lui assurait une mort certaine.
Oui, il faut remarquer que l'engagement de Saviano, enfin, contre le gouvernement, ça rentre aussi dans son combat contre la mafia, puisque la précarisation des migrants, ça rentre aussi dans des logiques mafieuses, puisque c'est la mafia après, ça instaure une forme de prédation de la mafia sur ces populations vulnérabilisées.
Qui les utilise dans énormément de secteurs privés, effectivement, pour comme main-d'œuvre à pas cher, voire gratuite.
Voilà, et pour continuer sur les migrants et les réfugiés, on va maintenant venir en Hongrie, où a été instauré tout récemment un délit pénal pour aide aux migrants, dit illégaux. Mercredi, le Parlement hongrois a adopté plusieurs textes regroupés sous le nom de Stop Soros, qui instaure des poursuites pénales contre les personnes ou organisations qui porteraient assistance aux migrants en situation irrégulière. Alors, le Premier ministre Orban a fait voter cette loi dont l'objectif affiché d'endiguer l'immigration illégale et de limiter l'influence des ONG soutenues par le milliardaire américain et juif George Soros. Alors, cet acharnement d'Orban contre Soros, hein, parce que c'est pas la première fois, à longueur de temps, il parle tout le temps de Soros, fait partie plus globalement d'une véritable campagne antisémite, hein, qui suggère d'ailleurs l'idée d'une espèce de cinquième colonne juive au sein du pays et de l'Union européenne, pour islamiser ou instaurer tout simplement les valeurs décadentes de l'Occident en Hongrie. Un antisémitisme d'ailleurs qui n'empêche pas Netanyahou ou autres sionistes d'être des grands amis d'Orban. Hein. Et puis on peut le voir souvent d'ailleurs, les meilleurs soutiens des sionistes sont souvent aussi les plus grands antisémites. Donc pour citer le ministre de l'Intérieur, l'ensemble des lois Stop Soros servent un but, faire de l'organisation de l'immigration illégale un délit pénal. Nous voulons nous servir de ces lois pour éviter que la Hongrie devienne un pays de migrants. Donc ces nouvelles lois, elles prévoient, comme je l'ai dit, que toute personne ou organisation qui aide les migrants pourront être condamnées pénalement à de la prison ferme. Alors aujourd'hui, en France, on en a déjà beaucoup parlé, il y a une forme de criminalisation de la solidarité envers les migrants, mais pour le moment, on reste à un niveau juridictionnel correctionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore des stades de peine de prison ferme, etc. En Hongrie, eux, ils sont en train justement de passer cette étape. Donc le Parlement, où Orban dispose de 2/3 des sièges avec le Fidesz, a également approuvé un amendement constitutionnel qui stipule qu'une population étrangère ne peut pas s'installer en Hongrie. Donc ça, c'est une mesure qui vise directement à contrecarrer le système de quotas qui a été soutenu par la Commission européenne pour l'accueil des réfugiés. Bref, en Europe de l'Est, on voit en ce moment, par défiance notamment envers l'Union européenne et l'Europe de l'Ouest plutôt, qui est vue comme impérialiste et à juste titre, hein, on voit une montée des idées racistes, fascistes qui s'insinuent de plus en plus dans toute la société. Alors tout y est, hein, ennemi intérieur, état de siège du pays, l'étranger érigé comme ennemi, la supériorité d'une identité hongroise, européenne, etc. et une espèce de menace de la décadence. Donc aujourd'hui en Europe, on a de plus en plus de pays qui semblent gagner au fameux bingo du parfait petit régime fascisant. Et pourtant, hein, les Hongrois, c'est pas comme s'ils faisaient grand-chose par rapport à la crise des réfugiés. Hein. Ils n'ont jamais beaucoup accueilli. Les statistiques hongroises montrent qu'il y a 3500 réfugiés qui vivent en Hongrie pour un pays de 10 millions d'habitants et que seulement 342 ont demandé l'asile dans ce pays au cours des 4 premiers mois de l'année. Donc comme d'habitude, bon, la réaction de l'Union européenne face à ces nouvelles mesures, elle a été relativement timide, alors qu'on a un sommet en ce moment des gouvernements européens sur la question migratoire. Une réaction timide qui contraste d'ailleurs avec toutes les réactions qu'on avait pu voir pendant la crise grecque quand il a été question de remettre en cause les règles budgétaires et monétaires de l'Union européenne.
Et même on pourrait dire timide, c'est juste des réactions qui sont purement
symbolique,
publiques et symboliques, hein, puisque pour la Grèce, ce n'était pas du tout symbolique.
Maintenant, nous allons partir à l'international vers la Syrie, où l'armée syrienne veut reprendre le contrôle du nord de la Syrie par la force si les rebelles ne refusaient de pouvoir capituler. Damas a en effet dénoncé la présence des forces turques et américaines dans les environs de la ville de Manbij, dans le nord de la Syrie, où elles ont commencé à effectuer des patrouilles. Et Ankara et Washington ont signé un accord prévoyant le retrait de Manbij des combattants kurdes syriens des unités de protection du peuple. Et le président syrien, quant à lui, dans une interview, a dit que nous avons choisi deux voies. La première et la plus importante est la réconciliation. Et la deuxième voie, c'est d'attaquer les terroristes s'ils ne se rendent pas et refusent de pouvoir faire la paix. Donc reprendre le contrôle par la force est la voie que le président syrien est en train d'entreprendre. Combattre, reprendre le contrôle par la force n'est assurément pas la meilleure option, mais c'est apparemment la seule manière de contrôler le pays selon Bachar al-Assad. Le président syrien a aussi déclaré que la Syrie n'accepterait pas d'argent occidental pour pouvoir reconstruire le pays dévasté par cette année. Il dit « Nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir reconstruire ce pays. Si nous n'avons pas d'argent, nous emprunterons auprès de nos amis, auprès des Syriens qui vivent à l'étranger. » a-t-il dit.
«
Ok, à présent, on va continuer toujours à l'international. On va aller notamment en Afrique, et plus précisément à Ouagadougou. Il faut savoir, le 24 juin marque la fin du sommet africtiviste à Ouagadougou, au pays de Thomas Sankara, pour ceux qui ne connaissent pas Ouagadougou. Ce sommet a réuni plusieurs jeunes, on peut dire environ 200 jeunes, venus de tout le continent. L'objectif était de réfléchir ensemble sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile africaine, puisque beaucoup d'acteurs de la société civile sont considérés comme des adversaires politiques par certains dirigeants politiques qui gouvernent certains pays et qui pensent pouvoir finir leur vie au pouvoir. Cette rencontre dans la capitale burkinabé a été une opportunité pour les activistes du continent de définir quelle collaboration qu'il faut entreprendre avec les gouvernements et les activistes, notamment africains. Et pour certains activistes qui ont participé à ce sommet, ils pensent que les divergences de points de vue sur la gouvernance ne doivent pas être un frein à une forme de collaboration entre gouvernement et activistes, indique Sekfal, président de la Ligue des Africtivistes. Il a aussi rappelé que, je le cite, « le gouvernement et nous sommes tous dans les mêmes dynamiques pour construire une nouvelle démocratie, mais il faudrait en même temps qu'on essaye de se poser des questions pour voir où sommes-nous et quelles sont les différentes politiques ou feuilles de route de deux camps, afin que l'on puisse trouver les moyens d'aide à nos sociétés. » Il faut rappeler qu'il y a eu un premier sommet en 2015, mais je reste d'abord sur ce deuxième sommet qui a permis à plusieurs hommes politiques burkinabés, mais aussi du continent, de se familiariser avec le travail des activistes. Pour l'activiste togolais, c'est un début du dialogue et nous espérons que dans les années à venir, cette clarification-là sera partagée par tous. Et il espère que les activistes ne seront plus traqués comme des adversaires politiques à abattre. Suite à ce sommet, le président Roche, alors excusez-moi pour la prononciation de ce nom parce que c'était la première fois que je le vois, Roche Marc Christian Pérez.
C'est pas facile en même temps.
En tout cas, j'arrive pas à le dire, mais ouais, c'est son nom, c'est le nom de l'activiste togolais. Et il faut rappeler que en 2015, les Africtivistes apportaient plusieurs campagnes de sensibilisation et soutenaient plusieurs initiatives citoyennes en Afrique. Donc, on peut dire le but recherché est que ce sommet porte l'empreinte d'une nouvelle relation entre les acteurs engagés et politiques pour une Afrique résolument engagée à consolider les démocraties. Mais pour ça, il faut enterrer certains dirigeants politiques qui pensent qu'on est toujours dans les années 80.
Ouais, juste une question, pourquoi Africtiviste et pas genre panafricain
Pourquoi Africtiviste, c'est un jeu de mots qui est plutôt francophone, c'est bizarre.
Ouais, ou tu trouves que c'est bizarre, c'est pas grave, mais je pense que.
Je trouve pas ça bizarre, je trouve ça normal au vu de l'Empire impérial.
Non, mais écoute, peut-être on s'est pas compris. Non, attention, parce que il faut essayer de voir, il y a plusieurs mouvements, mais ce mouvement, d'abord, il faut savoir une chose. Là, c'est des jeunes qui essayent d'utiliser l'Internet. Pour vous dire vrai, c'est des jeunes qui essayent d'utiliser l'Internet parce que pour certains, l'Internet, c'est une révolution comme a été une révolution. Vous savez, il y a la révolution industrielle. Pour eux, l'Afrique a raté la révolution industrielle. Et cette révolution qui est l'Internet, il ne faut pas la rater. Donc, pour répondre à ce nom, pourquoi affectiviste, je ne sais pas, mais... Activiste et Afrique, il y a deux mots qui sont là. Bah, peut-être, ce serait bien qu'on essaie de les avoir pour qu'ils nous disent pourquoi ce nom. Mais en tout cas, je pense que c'est une belle initiative dans la mesure où l'Internet aujourd'hui joue un rôle fondamental dans le développement de certains pays, notamment en Afrique.
On va continuer avec une revue de mobilisation féministe, notamment en Amérique du Sud et en Espagne. Donc, on commence par l'Espagne. On avait déjà parlé il y a quelques semaines de l'affaire de la Manada, la meute. Donc, 5 hommes espagnols qui ont violé en réunion une femme tout en se filmant et en s'en vantant sur WhatsApp pendant une feria. Le tribunal de Navarre n'avait pas retenu la qualification de viol, mais seulement d'agression sexuelle, comme c'est souvent le cas d'ailleurs aussi en France. Et la mobilisation féministe avait répondu présente lors du procès en avril avec des milliers de femmes qui sont descendues dans les rues au cri de « Yo si te creo, moi, oui je te crois » ou de « Si es violación, oui c'est un viol ». Ce week-end, la mobilisation a repris de plus belle au moment où les condamnés ont été mis en liberté provisoire. Et oui, parce que les cinq hommes avaient été condamnés à 9 ans de prison pour agression sexuelle. Et jeudi, donc moins de 2 mois après leur condamnation, les juges à 2 voix contre 1 ont décidé de leur mise en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant une caution de 6 000 € chacun. Le tribunal de Navarre a expliqué autoriser la libération de ces hommes parce que la pression sociale qui s'exerce sur eux rend pratiquement impensable le risque de récidive. Voilà, essayez de trouver la logique du truc. Plusieurs contrôles s'appliqueront aux condamnés déjà en fait qui ont déjà fait 2 ans de détention provisoire depuis l'arrestation, entre l'arrestation et le procès. Ils n'auront pas le droit de quitter l'Espagne, devront se présenter 3 fois par semaine au tribunal et auront l'interdiction totale de se rendre à Madrid, ville de la victime. Donc évidemment, l'indignation est forte face à cette remise en liberté. Et surtout que 4 des 5 condamnés font l'objet d'une autre enquête pour agression sexuelle d'une femme de 21 ans en mai 2016, où ils avaient aussi filmé avec un téléphone portable. Donc on rappelle que parmi les 5 hommes, il y en a un qui est garde civil et un qui est un ancien militaire. Ils attendent aussi leur procès en appel, parce que le parquet avait trouvé trop clémente la condamnation en première instance. Et la mairie de la ville où a eu lieu la feria, Pampelune, se porte aussi partie civile dans l'affaire en annonçant qu'elle ferait appel de la remise en liberté. Donc une pétition en ligne sur le site change.org contre leur libération a déjà recueilli plus de 6 000 signatures et des milliers de femmes et d'hommes de tous âges se sont rassemblés vendredi soir devant le ministère de la Justice à Madrid. Derrière une banderole toujours « No es abuso, si es violación », »,« Ce n'est pas une agression, c'est un viol », et tout un tas d'autres slogans dont bien sûr « Assez de la justice patriarcale » puisque c'est bien face à ça qu'on se retrouve avec ce cas du tribunal de Navarre. Donc il y a eu plein de manifestations aussi à Pampelune, à Séville, dont sont originaires les 5 agresseurs, à Valence, à Saragosse, à Grenade, à Barcelone, Bilbao, Vitoria et San Sebastián. Courage aux Espagnols en tout cas, et on continue avec des pays hispanophones, ou en fait colonisés par l'Espagne, donc au Chili, puisque petit écho la blague sur les activistes d'Afrique, n'est-ce pas? Donc au Chili, il y a eu aussi, on a déjà parlé il y a 2 semaines, un mouvement d'ampleur contre le harcèlement et les agressions sexuelles qui est parti notamment des universités, avec une vingtaine d'établissements bloqués. Et ce qui est décrit comme par pas mal de médias nationaux comme une révolution féministe. Donc il y a un mouvement très intéressant encore au Chili, ou sur lequel je reviens pas trop vu qu'on en a déjà parlé. Et enfin en Argentine, après des décennies de lutte, pour finir sur quelque chose d'un peu plus positif, et de grandes marches pour l'avortement cette année, avec même une manifestation qui a duré plus de 20 heures au moment du vote à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi légalisant l'avortement, donc l'interruption volontaire de grossesse, jusqu'à 14 semaines de grossesse, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 14 juin. C'était quand même assez juste, hein, 129 voix contre 125. Il reste encore le passage au Sénat au début du mois de juillet. Donc jusqu'ici, l'avortement était autorisé seulement en cas de viol ou de danger pour la santé de la femme enceinte ou pour sa vie. Et les associations estimaient que 500 000 avortements clandestins avaient lieu chaque année et qu'une centaine de femmes en mouraient. Donc évidemment, on avait toujours d'un côté des femmes un peu aisées qui arrivaient à faire pratiquer des avortements dans des cliniques privées, avec des médecin qui les admettait pour un autre diagnostic à des méthodes beaucoup plus dangereuses pour celles qui n'avaient pas les moyens, comme les aiguilles à tricoter et autres actes qui provoquent soit la mort directe, soit des infections qui provoquent par la suite la mort. Donc c'est une nouvelle très positive pour l'Argentine. Espérons que les réacs du Sénat ne vont pas frapper une fois de plus. Et on salue quand même aussi, bien sûr, la mobilisation qui est de longue date en Argentine, avec notamment plusieurs associations qui, depuis un moment, accompagnaient les femmes qui n'avaient pas trop, enfin les femmes justement qui n'avaient pas trop les moyens pour essayer d'accéder à l'avortement de manière détournée par prescription de misoprostol, par accompagnement dans des cliniques. Bon, bref, il y avait quand même déjà des solidarités féministes assez importantes avec le réseau notamment Socorristas en Red, qui permettait donc de parler de l'avortement, de le aussi de le dédramatiser, mais de combattre l'idée de culpabilité à laquelle il est attaché par le système patriarcal, et d'accompagner de manière très concrète les femmes dans cet acte qui leur permet une reprise du contrôle de leur corps. Voilà.
Alors, on enchaîne ensuite avec donc le National. Et si vous ne le saviez pas, à Enedis, donc anciennement EDF et GRDF, Engie, il y a une grève massive, puisque 245 sites sont aujourd'hui dans le mouvement. Alors, depuis le début de la semaine, un mouvement de grève à échelle nationale est lancé donc chez Enedis, ERDF et GRDF, Engie. C'est donc en gros le plus gros mouvement de grève depuis plus de 10 ans, et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il y a 10 ans ce plus gros mouvement de grève était contre le passage à quelque chose qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire le passage en société anonyme, une privatisation partielle d'EDF et GDF. C'est exactement ce qui se passe à la SNCF, hein. Alors aujourd'hui, les électriciens et gaziers revendiquent le maintien de tous les emplois, vous verrez pourquoi tout à l'heure, une hausse de salaire de 400 euros, un salaire minimum de 1800 euros, mais aussi l'embauche des CDD et des intérimaires en CDI pour sortir des contrats précaires, et la nationalisation, ou même plutôt la renationalisation des différents secteurs de l'énergie. Donc, 245 sites mobilisés, 120 sites partiellement bloqués ou occupés par les travailleurs grévistes, dont 50 sites complètement bloqué, et certains, ce n'est pas la première semaine pour laquelle il y a une mobilisation. Alors ce mouvement, il faut savoir qu'il s'inscrit dans un contexte où l'État compte bien finaliser la privatisation d'Engie, mais pas seulement. Alors, peut-être étiez-vous passé à côté, mais ce 18 juin dernier, en Conseil des ministres est passé et acté évidemment la loi PACTE, ou plutôt plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Toujours un joli nom pour des jolies phrases. Derrière, c'est le projet de privatiser totalement Engie, la Française des Jeux et les aéroports de Paris. Alors, petit aparté pour les aéroports de Paris, qui va être le principal bénéficiaire de la privatisation des aéroports de Paris, d'après vous ? Vinci. Aéroport incroyable, et ce, depuis notamment l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Alors, toujours dans cette loi PACTE, hein, j'insiste un peu dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, il y a également la déréglementation des entreprises avec notamment la suppression des obligations en termes de construction, donc plus d'obligations en termes de construction, de restauration et du règlement intérieur pour les entreprises inférieures à 50 salariés. En gros, la loi PACTE, ce qu'elle permet, c'est de faire sauter beaucoup de verrous, et notamment l'impossibilité pour l'État de céder totalement ses parts donc du secteur public vers le secteur privé, ce qui était le cas pour Engie, pour certains aéroports et pour la Française des Jeux. Donc revenons à Engie notamment, qui est donc aujourd'hui détenue encore par 24,1% par l'État. En 2017, Engie a versé 550 millions d'euros, ce qui est loin d'être rien, de dividendes à l'État, soit autant qui passera au minimum par an, hein, du budget de l'État aux intérêts privés si la privatisation totale est effective. En 10 ans, 40% des entreprises Enedis et GRDF Engie ont été fermés depuis ce fameux passage en société anonyme. Et une nouvelle coupe est prévue d'ici à 2021. 2500 postes sont menacés côté GRDF Engie et 2000 postes sont menacés côté EDF Enedis. 30% des sites devraient être fermés d'ici à 2022 si cette jolie loi PACTE passe. Alors, face à cette grève qui prend de l'ampleur dans beaucoup de villes, notamment à Lyon, mais dans beaucoup de villes, et qui s'organise, eh bien, la direction a déployé des huissiers, des maîtres-chiens sur tous les sites mobilisés, sur les 245 sites mobilisés. Et c'est exactement ce qui se passe à la SNCF, hein, c'est-à-dire que la direction fait évidemment tout pour tuer dans l'œuf cette mobilisation, mais qui est loin de se terminer. Et donc, je terminerai ce point sur EDF, GDF, Engie, Enedis, pour dire que quand on nous dit, côté direction de la SNCF, Guillaume Pépi, quand on nous dit côté ministère des Transports, ministère Premier ministre et Macron que non, la SNCF ne sera pas privatisée en passant en société anonyme, eh bien il y a 10 ans, EDF et GDF, c'était plus de 10 ans, hein, c'était 100% public. Puis c'était des établissements qui étaient donc des EHPAD, des établissements à caractère public et administratif. Ils se sont ensuite transformés en EPIC, établissements à caractère public, industriel et commercial. Puis en société anonyme, c'est-à-dire gérée comme des entreprises privées. C'est exactement ce qui s'est passé donc il y a 10 ans et ce qui a provoqué de nombreuses suppressions de postes, des fermetures de sites et une gestion ultra-managériale des employés. C'est ce qu'ils sont en train de faire à la SNCF et quand ils nous disent qu'il n'y aura pas de privatisation et que ce n'est pas prévu, eh bien c'est faux. On en a l'exemple sur ces deux sites, ces anciens services publics français que sont EDF et GDF.
Et puis tu aurais aussi, enfin je sais pas si tu en as parlé, mais du silence assourdissant des médias mainstream sur cette grève qui est quand même d'une ampleur très importante et on n'en entend pas un traître mot dans les médias traditionnels. Bon, tout de suite on va passer à un autre sujet, donc hier ce qui s'est passé c'est que près de 10 personnes liées à l'extrême droite ont été arrêtées par les services antiterroristes pour avoir fomenté un projet d'attentat, au contour assez flou, contre des musulmans. Alors ces individus qui se regroupaient sous le sigle d'Action Force Opérationnelle habitent respectivement en Ile-de-France, en Charente-Maritime, dans la Vienne et en Corse. Et visiblement, ils étaient actifs depuis plusieurs mois pour préparer cet attentat et avaient même entamé des préparatifs, repérage de mosquées et établissement d'une liste d'imams à éliminer. Alors parmi ces fascistes interpellés, on retrouve des trentenaires, des quinquagénaires et des sexagénaires, comme quoi le fascisme c'est intergénérationnel, qui possédaient en tout près d'une vingtaine d'armes à feu quand même, et de manière légale en plus. Et du coup, un de leurs objectifs était avant tout de frapper, après un éventuel attentat de salafistes djihadistes sur le sol français, une manière pour eux d'instaurer un climat de vengeance et de racisme propre à augmenter l'assimilation de tous les musulmans aux actions terroristes. Bref, une espèce d'instrument de terreur pour favoriser un climat de guerre civile qu'appellent de leurs vœux les extrémistes des deux bords, qu'ils soient fascistes ou islamistes.
Ah, j'ai eu peur.
Non, je n'ai pas parlé d'extrême droite.
Tu t'attendais au petit parallèle entre l'extrême gauche et l'extrême droite ?
Eh ben non. Non. Je ne suis pas Gérard Collomb. Hein.
C'est la troisième déclaration. On ne dit pas tout ce qui se dit en antenne. Mais...
Donc le... On va s'en remettre. Alors, le retour depuis ces derniers mois de phénomène d'un terrorisme fasciste, on l'a vu en Italie, mais aussi en France, c'est un phénomène qui est particulièrement préoccupant. Je vous rappelle, pendant les présidentielles, il y a eu un groupe similaire, affilié à l'Action française, lui, qui avait été démantelé alors qu'il préparait les attentats soit contre Gérard Darmanin ou Mélenchon. Bon, Gérard Darmanin, c'est pas grave, mais... En octobre 2017, on avait aussi un autre réseau qui avait été arrêté, qui voulait s'en prendre, eux, à des non-blancs, et enclencher, selon leurs propres mots, une rémigration basée sur la terreur. Bon, un agenda politique qui n'est pas très différent de celui du gouvernement, mais bon, les méthodes ne sont pas encore les mêmes. Bref, on voit bien également ailleurs en Europe une banalisation des idées d'extrême droite, en Hongrie, en Autriche, puis surtout en Italie, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pourrais rajouter sur l'Italie, d'ailleurs, qu'on aperçoit depuis quelques années un retour et une banalisation d'un fascisme qui se dit déidéologisé. Un phénomène même qui est devenu une espèce de phénomène de mode en fait chez beaucoup de jeunes Italiens, et ça, pour ça je vous renvoie à une enquête de Mediapart qu'ils ont publiée récemment. Sinon, bah, ce contexte de résurgence de ces groupes terroristes, hein, une appellation d'ailleurs qu'aucun média n'a utilisée, hein, comme pour une certaine manière atténuer la teneur de leurs actes.
Ce sont peut-être des malades.
C'est ça, ou juste des gens de l'ultra-droite. Eux, ils parlent de l'ultra-droite. Ils n'ont pas encore évoqué de maladie mentale. Mais en tout cas, on ne parle pas de fascisme ou de suprémacisme blanc, et surtout pas de forme de radicalisation.
On ne parle surtout pas d'extrême droite, en fait, c'est ça le truc.
Oui.
On ne les rapproche pas du tout de l'extrême droite.
Non.
Marine Le Pen a dit qu'il n'y avait aucun lien, donc...
Si
Marine a parlé...
Donc ce contexte de résurgence de groupes terroristes affiliés à l'extrême droite n'est pas étranger plus globalement à la situation de ces dernières années. L'islamophobie endémique dans le débat public et dans les politiques de l'État a instauré une forme de banalisation de l'acharnement contre les musulmans qui est propice aujourd'hui à l'expression de violences racistes. Nous voici aujourd'hui à revivre se déroulaient dans les années 70 où les crimes racistes étaient légion, hein, qu'on cassait du bico, comme dirait Jean-Marie. Comme on a pu le voir d'ailleurs, en 73, il y avait les ratonnades massives à Marseille où il y a eu près de 50 morts et 300 blessés algériens en 4 mois. Enfin voilà. Et aujourd'hui aussi, encore plus grave, hein, on peut voir que le chef de file de ce réseau qui a été démantelé hier était un retraité de la police nationale. Donc ça renvoie d'ailleurs à une note de la DGSI en 2017 qui s'alarmait de la participation accrue des membres de forces de l'ordre à des groupes d'extrême droite. Et donc ces individus formés au tir, possédant des armes, étaient surveillés depuis plus de 3 ans. Et alors forcément, pour reprendre une réflexion d'une militante antiraciste, donc Sia Masbag, bah forcément on se demande comment se comportaient ces gens-là sur le terrain, hein. Je veux dire, quand ils étaient policiers, au profilage racial, systémique et systématique, des violences policières exacerbées dans les quartiers populaires, aux crimes policiers touchant majoritairement les populations racisées, bah, s'ajoute désormais cette nouvelle tendance de fascisation de la police. Et qu'est-ce que cela, du coup, nous dit de l'état du monde policier aujourd'hui en France ? Alors, on pourrait également évoquer... les soupçons de participation de membres de la BAC à la ratonnade des étudiants à Montpellier qui avait eu lieu il y a quelques mois. Et clairement, bon, on a une forme de fascisation des forces de l'ordre aujourd'hui en France, quoi. Et bon, les exemples sont légion, j'en viens d'en citer beaucoup. Et du coup, on a une banalisation des idées d'extrême droite au sommet même de l'État, donc à base de reprise des termes forgés par les fascistes, clandestins, appel de l'air, etc. Colomb le fait très bien. Et surtout des politiques racistes et xénophobes, hein, comme la loi sur l'asile et l'immigration, de quoi légitimer ensuite des actes plus violents comme ceux qui se préparaient récemment. Pour le moment, l'État s'interpose, mais pour combien de temps encore va-t-il pouvoir réussir et les anticiper, ou même le vouloir, alors qu'il tolère en ce moment même l'action des identitaires à la frontière à Briançon?
Et pour continuer sur les mesures racistes et anti-migratoires, le Sénat fait même encore mieux que le gouvernement En Marche, puisqu'il essaye d'entériner une nouvelle attaque contre les sans-papiers en s'en prenant à l'aide médicale d'État. Donc l'aide médicale d'État, l'AME, c'est un dispositif qui permet l'accès aux soins aux étrangers en situation irrégulière, donc aux sans-papiers. Et il est soumis actuellement uniquement à une condition de résidence stable, donc il faut résider depuis au moins 3 mois en France, et à des conditions de ressources. Il faut avoir des ressources inférieures à un certain plafond. Et le Sénat souhaite, donc, et c'est une aide médicale qui permet d'aller chez le médecin, d'avoir accès à des médicaments à la pharmacie, etc. Bref, des soins courants. Et le Sénat souhaite transformer donc cette aide médicale d'État en une aide médicale d'urgence Et il a déposé il y a eu un amendement et un article en ce sens lors de l'examen du projet de loi Asile et Immigration. Même le gouvernement En Marche a réagi contre cet amendement, en la personne de la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, qui a déclaré que cet amendement... Buzyn, pardon. Qui a déclaré que cet amendement... oui, voilà, c'est pour ça que je... voilà. Elle a déclaré que donc, cet amendement était contraire à une politique de santé publique responsable qui vise à soigner le plus vite possible. Et c'est donc, nommons-le, le sénateur LR Roger Carucci qui souhaite transformer l'aide médicale d'urgence en aide médicale d'urgence en la conditionnant au paiement d'un droit annuel, en la réservant aux maladies graves et aux douleurs aiguës, aux soins liés à la grossesse, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive. Donc voilà, l'article issu de cet amendement a été voté jeudi soir dans l'hémicycle à une courte majorité, évidemment grâce au vote Les Républicains. Les groupes Union Centriste et les Indépendants se sont abstenus et les autres groupes, dont La République En Marche, ont voté contre. Le gouvernement a annoncé que... Et les députés de La République En Marche ont annoncé que lorsque le texte repasserait à l'Assemblée nationale, ils rétabliraient l'AME telle qu'elle était. Et Gérard Collomb a estimé que les modifications introduites contribueraient à embouteiller les urgences. Donc bon, chacun ses raisons d'être contre la suppression de l'aide médicale d'État, n'est-ce pas ?
C'est gentil, mais... Gégé, hein. Est-ce qu'on peut applaudir ?
Mais voilà, c'est effectivement des propositions de l'acabit de François Fillon ou Marine Le Pen, qui étaient les seuls candidats qui avaient proposé de supprimer l'AME pendant la campagne présidentielle.
Ouais. Alors, rappelons que le Sénat a un rôle principalement consultatif et que c'est bien l'Assemblée nationale qui acte en dernière instance, mais que à chaque fois que le Sénat, qui est toujours un peu plus à droite que l'Assemblée nationale, a proposé quelque chose, quelques années plus tard, on voit réapparaître l'attaque issue, bah, généralement des groupes un peu plus à droite que ceux qui sont au pouvoir. Donc, effectivement, ça laisse craindre que l'AME soit effectivement dans les années qui viennent remis en cause et pas que au Sénat.
Rappelons aussi que quand on dit que ce sera réservé aux maladies graves et aux douleurs aiguës, avec le dernier scandale sur la femme qui n'avait pas été secourue par le SAMU et les études qui ont été ensuite rendues publiques sur les différences de traitement par les personnels soignants en fonction de la couleur de peau des gens, donc avec en fait plein de préjugés racistes qui ferait penser à un certain nombre de soignants que, eh bien oui, les gens les plus noirs résistent le mieux à la douleur, donc finalement...
C'est pas vrai ça?
C'est pas vrai du tout. Hein.
Enfin bon, il y a différentes versions comme ça, ou alors au contraire... Ou alors au contraire, le syndrome méditerranéen qui ferait exagérer l'expression de la douleur... aux personnes originaires du Maghreb. Bon, voilà, bref, tout ça promet une bonne prise en charge égalitaire pour tout le monde.
Et des représentations quand même issues du passé colonial et esclavagiste de nos chers pays européens. Il faut le rappeler quand même.
Tu l'as bien fait. C'est dingue, on est d'accord sur ce plateau, mais c'est incroyable.
Peut-être.
C'est beau tout ça, cette belle entente.
On est surtout d'accord quand il faut meubler avant l'enchaînement du prochain sujet.
Ouais, quand il y en a un qui n'a pas capté que c'était à lui.
Mais si, parfaitement. Non, mais ça... Donc je suis bien là. Et simplement, donc pour continuer, donc, dans la logique des économies, eh ben, y en a d'autres qui en font sur le dos des Français et qui utilisent pour ça de l'argent public. Et donc très récemment, vient de sortir une nouvelle plainte, en fait, a été déposée dans la région lyonnaise par des élus locaux, des Républicains, et qui a amené à l'ouverture d'une enquête préliminaire qui vise quand même des faits... présumé de détournement de fonds publics, financement irrégulier de campagne électorale, abus de biens sociaux et recel. Donc en gros, en fait, ce qui a été reproché, c'est que bah, vu que Gérard Collomb était le mentor en fait de Macron, et bah, il a mis gratuitement au service L'inverse. De son poulain.
Ouais, mentor, je sais pas. Ouais. Mais...
Un pote. Ouais, ça, son ancêtre en tout cas en politique, quoi, c'est lui qui l'a introduit.
Son ancêtre, oui. Il va bientôt mourir. Donc,
C'est ce qui arrive à pas mal de gens, il paraît. Mais oui, donc Antler, l'effet en question, donc, c'est qu'il a clairement mis à la disposition de Macron un grand nombre de services publics et qui appartenaient à la métropole. Donc on parle de la mise en place de réceptions en l'honneur du ministre de l'économie juste après qu'il ait lancé son mouvement politique. On parle quand même de plus d'un millier de personnes invitées et de pas mal, notamment de notables et de grands patrons locaux. La mise en place en fait d'un double emploi pour un mec qui s'appelle Jean-Marie Girier, qui était quand même le chef de cabinet de Gérard Collomb et qui en même temps avait le double poste de stratège de la campagne de Macron. Donc en fait le mec était clairement payé par en tant que chef de cabinet pour en fait faire clairement gratuitement la campagne de Macron en même temps. Il y a un certain nombre d'arrêtés de stationnement pour les meetings de campagne, l'utilisation de différents locaux pour Macron et que des différentes réunions qu'il a pu utiliser, et que la métropole aussi a carrément réservé en louant pour un très faible prix une péniche en fait pour que Macron et ses copains puissent faire la fête. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut relier tout ça, parce que ça c'est ce qui arrive simplement à Lyon, mais que cela s'ajoute à des rabais qui ont été sortis par différents médias, et là cette fois à Paris, parlant de rabais qui a obtenu par Macron et son parti, allant de 36 à quand même 75% sur un certain nombre de locations de salles à Paris, qui a été en fait entièrement qualifié par l'association Anticorps de détournement de fonds publics en fait et de dons déguisés à une campagne politique. Donc on parle quand même de plusieurs centaines, en tout on commence maintenant à force en additionnant tout ça à parler de plusieurs centaines de milliers d'euros qui a été économisé par le candidat Macron, alors que en même temps de plus en plus régulièrement des études américaines où on peut le rappeler les fonds sont beaucoup n'ont pas de limite, montrent que c'est à chaque fois le candidat le plus riche qui gagne les élections. On peut donc légitimement se poser la question de l'impact qui a pu avoir ces centaines de milliers d'euros, et je pense sur d'autres millions qu'on va bientôt voir un jour ou l'autre arriver sur cette politique et sur cette élection.
Bon, François Fillon, ça n'a pas marché, lui. Hein.
Et oui, parce qu'il n'avait pas les bons copains. Et donc
Tu ne peux pas reprocher à Macron d'avoir des potes placés partout, dans la finance, les assurances, les banques, etc. Franchement, entre potes, tu peux te faire des petits arrangements.
Ah, mais oui, ça marche très bien. 75% de réduction.
Mais bon, tu connais bien la règle, hein, pas vu, pas pris pendant les élections.
En tout cas.
Mais bientôt pris, on verra bien.
Espérons. On continue au local avec la lutte contre le harcèlement sexuel à l'université. Et une sanction qui a été prise à l'université Lumière Lyon 2, donc la section disciplinaire de Lyon 2 a reconnu dans une décision du 9 avril 2018 que le harcèlement sexuel et l'emprise exercée par un professeur sur une doctorante sous sa direction et a prononcé donc à l'encontre de ce professeur 12 mois d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche, avec privation de la totalité de son salaire. Le condamné fait donc appel de la décision et la section disciplinaire s'est appuyée sur le témoignage de la victime, sur 3 enregistrements, sur des conversations téléphoniques. Et la décision de la section disciplinaire met en évidence que, bien sûr, ce harcèlement s'est produit dans une configuration d'abus de pouvoir plus large de la part du directeur des thèses. Donc, évidemment, on est comme dans une situation toute de domination très facile pour un directeur de thèse sur l'étudiante dont il dirige la thèse. Et on rappelle qu'il y a donc un collectif qui s'appelle le CLASH, le collectif de lutte contre les agressions sexuelles dans l'enseignement supérieur, qui fait un gros travail contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur, et qui a produit notamment un guide très riche à la fois juridique et politique sur la manière de réagir et de lutter contre ces agressions. C'est une association féministe qui est ouverte à l'ensemble des étudiants et étudiantes, des doctorants et doctorantes, des enseignants, enseignantes, chercheurs et aussi personnel BIAT. Et le CLASH a donc salué dans un communiqué du 13 juin la sévérité de la sanction qui a été prise à Lyon 2, qui est assez inédite pour des sections disciplinaires qui se contentent souvent en fait de sanctions symboliques en matière de violence sexuelle. Là quand même, le mec a 12 mois d'interdiction de professorat sans salaire. Il rappelle quand même à la fin du communiqué, je cite, que si cette décision est exemplaire, c'est surtout en comparaison des nombreux dysfonctionnements qui caractérisent généralement les procédures disciplinaires. Elle ne doit donc pas conduire à penser que tout est réglé en matière de lutte contre les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur. Au contraire, elle doit être le début d'une prise de conscience collective. Il n'est plus acceptable que des auteurs de violences sexuelles demeurent impunis dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et on rajoute, il n'est plus acceptable que des auteurs de violences sexuelles demeurent impunis partout ailleurs. Donc mobilisons-nous au travail, à l'école et partout où on peut contre les agressions et les violences sexuelles.
Et donc là, on va revenir sur des questions de migrants qu'on a abordées au niveau international, national, et maintenant on va aborder localement, car il y a eu jeudi dernier en fait un énième, on peut même pas parler, oui, pas de massacre, mais pas de bavure non plus policière, avec une expulsion extrêmement violente en fait d'un squat qui venait d'être ouvert par
surtout les surtout illégal.
Et par contre totalement illégal, c'est ça sur lequel il faut insister, qui avait été donc ouvert pour les mineurs qui étaient à la rue. Donc on va revenir un peu rapidement sur la situation pour que tout le monde se resitue. Il y a un gros problème à Lyon d'accueil en fait des mineurs isolés pris étrangers.
En France.
En France aussi, mais pour parler de la situation qu'on maîtrise le mieux, en France c'est une catastrophe aussi, mais en tout cas à Lyon aussi, des trucs qu'on voit et avec lesquels on lutte tous les jours, c'est que les mineurs isolés en fait qui arrivent en général à la gare de la Part-Dieu sont à la merci en fait de tout et n'importe quoi. Enfin, on a déjà eu des cas de pédophilie et compagnie qui ont été relevés, et que les structures d'accueil en fait et d'évaluation de l'ASE, des services sociaux de l'enfance, sont totalement débordés et sont absolument pas suffisamment nombreux pour pouvoir
assurer. Absolument pas dotés en moyens.
Dotés en moyens, oui, pour assurer, en fait, contre ce grand nombre de jeunes qui arrivent tous les jours sur Lyon. Donc, pour pallier à ça, et un collectif, en fait, majoritairement composé d'étudiantes et d'étudiants, se sont mobilisés, avaient mis en place tout un système d'hébergement citoyen dans des appartements, système qui craque dans tous les sens, parce que trop de jeunes, et qui avaient donc ouvert un squat. Avaient récupéré un squat qui s'appelait La Cabine, qu'ils avaient transformé en La Cabane, et qui tournait très bien. On a accueillant plus d'une cinquantaine de jeunes avec l'appui d'un certain nombre d'associations, le temps qu'ils soient pris en charge par les services de l'enfance.
Et on avait même fait un petit reportage, toujours disponible en ligne, sur ce squat, n'oubliez pas.
C'est vrai.
Petit et moment pub.
Un beau reportage.
Un magnifique reportage.
Autopromo.
Attention. Bah, donc le drame était arrivé donc le 29 mai 2018 où, alors que la métropole en fait avait invité les personnes qui aidaient à la gestion de ce squat à des réunions pour voir avec eux comment améliorer les choses, la mairie, pendant ce temps-là, n'a pas trouvé mieux à faire que d'expulser le squat dont elle était propriétaire. Résultat, il n'y a plus rien pour les primo-arrivants, à part les bâtiments de forme réfugiés qui sont totalement insuffisants, et donc un certain nombre de gamins allaient se retrouver à nouveau à la rue. Donc ça avait été repris dans les appartements, mais très rapidement, ça avait évidemment débordé au point qu'à l'heure actuelle, il y a entre 50 et 70 jeunes qui sont hébergés dans différents appartements étudiants ou de personnes solidaires. Et donc, pour évidemment à nouveau pallier à ça, avait été décidé l'ouverture d'un nouveau squat qui avait donc pour but d'héberger ces personnes. Cette ouverture avait eu lieu en fait en début de semaine, donc là, dès lundi, les gens étaient rentrés dans le bâtiment. L'officialisation au grand public avait été faite mercredi, donc ce qui nous donnait légalement parlant les 48 heures qui habituellement en fait prouvent l'occupation légale d'un lieu et qui, selon la loi française, empêche toute forme d'expulsion sans la mise en place en fait d'une procédure juridique qui veut dire procès et qui normalement permet de tenir quand même quelques mois, on peut dire quand même grâce à la lenteur de la justice. Sauf que là, pour éviter la énième mise en place d'un squat que les forces de l'ordre qualifient de squat de gauchiste, et le propriétaire qui est Métropole Habitat.
C'est Grand Lyon Habitat, qui est donc à la tête de Grand Lyon Habitat, c'est la métropole. Et rappelons que la métropole est censée, normalement, elle, héberger les mineurs isolés étrangers, ce qu'elle ne fait pas. Ou
au même titre que tous les autres mineurs isolés, puisqu'il y a quand même la loi qui garantit la protection de l'enfance en France. Voilà. Donc tous les mineurs, qu'ils soient étrangers ou français, s'ils sont isolés, doivent être pris en charge par les départements ou à Lyon par la métropole.
Donc qui plus est, il y avait une portée symbolique dans l'occupation de ce bâtiment, puisque plus que symbolique, la métropole comme Grand Lyon Habitat ont énormément de bâtiments vides sur l'intégralité de la métropole, et du coup ce nouveau bâtiment vide occupé, eh bien, il permettait d'héberger un certain nombre de mineurs isolés étrangers. Et là, la métropole a tout mis en œuvre avec la préfecture pour expulser
pour expulser donc ce jeudi ce bâtiment donc qui est en fait donc le lendemain de l'officialisation qui a, on s'est retrouvé avec plusieurs quarts de CRS enfin de force de l'ordre en tout cas de
pas CRS mais en tout cas
ouais, de, enfin de,